Formasart te permet de se poser la question de son avenir, de venir voir ce qu'on aimerait faire finalement en termes professionnels et le parcours qui pourrait être le plus adapté dans les écoles. Mais ça, c'est pour les élèves qui sont sur des visions positives finalement de l'avenir. Et puis il y a parfois des élèves qui n'ont pas du tout de vision positive par rapport à l'avenir, qui n'ont même pas de vision par rapport à l'avenir, et qui parfois sont dans des telles difficultés diverses, familiales, sociales ou autres, que l'école, c'est plus leur truc. À ce moment-là, on dit qu'ils décrochent. C'est le mot qu'on utilise. Alors, avec nous ici, Gilles Manson, qui est coordinateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. C'est un nouveau terme, ce terme-là, pour désigner votre mission ?
Absolument. Alors, c'est un nouvel acronyme qui fait suite, à différentes appellations, notamment la toute dernière qui commençait à être entendue et comprise de tous, qui était la mission générale d'insertion de l'éducation nationale. Notre ministre Peillon a souhaité à la fois requalifier par un nouvel acronyme, notre service, mais pour autant, ça questionne également les missions, le cœur de mission, plus en amont, sur des logiques de prévention en établissement.
Alors, on va y venir justement. Qu'est-ce que c'est que le décrochage scolaire ?
Ah, c'est une question à la fois simple et difficile.
Je pense qu'elle est plus compliquée simple.
Voilà, ouais. Le décrochage scolaire est un phénomène très très complexe, multifactoriel.
C'est un mot qu'on utilise depuis peu, en fait. Ça fait quoi, 10-15 ans qu'on utilise ce terme ?
Oui, c'est ça. C'est un mot qui nous vient d'outre-Atlantique, et notamment les Canadiens, Québécois, qui sont très en avance sur ces questions de décrochage, mais surtout de raccrochage scolaire. Alors, eux, ils le dénomment sous la notion drop out, donc je quitte.
Sortie.
Donc, le décrochage, en effet, est un vocable relativement récent, mais pour autant, même si nous étions dans des logiques un peu confidentielles, le service auquel j'appartiens, donc, qui est donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire, a maintenant quelque chose comme 25 ans. 25 ans de présence dans l'éducation nationale, une mission assignée très clairement, dans les missions fondamentales de l'école, qui concerne l'ensemble des acteurs du système éducatif, professeurs, chefs d'établissement, chefs de travaux, personnels sociaux, personnel d'éducation. Donc la question du décrochage, alors je vais répondre à votre question puisque vous m'avez questionné sur le décrochage. Qu'est-ce que ce décrochage ? Le décrochage, c'est un moment de rupture. C'est un moment de rupture consommé de jeunes qui perdent le fil de l'école. La perte de sens de l'école fait qu'à un moment, les difficultés cognitives aidant, des problèmes sociaux, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, des difficultés de se situer dans la famille, des difficultés de projection vers l'avenir font qu'à un moment, ces jeunes-là pensent qu'ils n'ont plus de salut dans l'école.
Il y a un mot qui fait peur dans votre définition. Vous dites rupture consommée. Mais alors on a échoué, si elle est déjà consommée.
Alors en effet, là on parle de décrocher. Parce que le décrocheur, on présuppose dans le décrocheur que finalement le jeune est toujours en scolarité et raccroché à un établissement scolaire. Donc libre à nous et aux équipes pédagogiques des établissements et des équipes de direction de mettre en place tout un dispositif pour pallier cette difficulté. Quand on est décroché, malheureusement, on a quitté les bancs d'école.
Mais alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que quelqu'un a décroché ? Quand est-ce que c'est rattrapable ?
Alors,
quand est-il trop tard ?
Alors, il n'est jamais trop tard, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard, même si j'ai insisté sur des logiques de prévention dans mes propos liminaires, il n'est jamais trop tard, puisque au titre de notre service, notre réponse, précisément, au titre de l'interventionnisme qu'on souhaite mettre en place, c'est de proposer à la fois des mesures curatives, au travers d'actions d'accompagnement de ces décrocheurs, pour mieux travailler des projets de réorientation pour revenir à l'école. Après, finalement, une espèce de pacte de paix, d'apaisement, d'entrée vers des nouvelles compétences, de la confiance en soi, de la reprise de confiance, ce qui fait que le jeune est capable d'imaginer reprendre son métier d'élève.
Alors, la prévention est évidemment quelque chose de fondamental. Il y a une petite chose qui pourrait quand même nous étonner. Il me semble que votre mission s'intéresse aux jeunes à partir de 16 ans. Or, on voit de plus en plus de cas d'élèves décrocheurs en collège, voire même en école primaire. Mais alors, la prévention, elle est où, là ?
Oui. Alors, c'est une remarque très, très juste. Les dispositifs d'année en année mis en place nous montrent que finalement, il n'est jamais trop tard, mais jamais trop tôt non plus, pour intervenir sur cette question du décrochage. En effet, on observe quand même que plus on prend le problème à sa source, donc originellement le plus tôt possible, moins on verra ces jeunes finalement quitter prématurément l'école. Donc votre remarque de quel dispositif a-t-on en collège pour lutter contre ces questions de décrochage ? Que fait l'école primaire pour que ces jeunes finalement soient pris en compte, qu'on leur propose des méthodes pédagogiques différentes, qu'on essaie de les associer, comment dire, à une véritable remise en selle, si j'ose dire, de ces questions-là? Eh bien, c'est une question qui actuellement est très très prégnante à la fois dans le discours du ministre Peillon, mais aussi de l'ensemble des académies et des écoles. Et on voit bien des focus là dans les établissements scolaires, des collèges qui se préoccupent de plus en plus, comment dire, d'absence de solution. Alors on essaie bien évidemment, alors j'appelle ça de la bidouille intelligente, c'est-à-dire que les équipes sont confrontées à ces phénomènes, les équipes de direction, les équipes éducatives, on met en place finalement des remèdes, mais qui sont des pansements sur des jambes de bois, et pour autant on doit louer les efforts, comment dire, des équipes éducatives, parce que c'est bien de moins en moins simple.
Mais alors comment se fait-il qu'on ait mis une mission de lutte contre le décrochage scolaire à partir de 16 ans et qu'on n'ait pas mis le même dispositif avant, alors que visiblement, enfin, c'est avant que ça se joue?
Alors, la réponse, je dirais...
Pourquoi les sparadraps avant, quoi? Alors, le collège, et les soins réels après?
Le collège n'est pas sans rien, entendons-nous bien. Il est possible de mettre en place, comment dire, des alternatives à une scolarité complète par le biais de parcours individualisés, par exemple. Quand une équipe pédagogique estime qu'il est de bon ton et souhaitable pour le jeune, comment dire, d'alléger, par exemple, le temps de formation pour que ce jeune y revienne peut-être de manière... je dirais plus enthousiaste après ce temps, comment dire, de prise en charge, eh bien c'est fait. On a des dispositifs qu'on appelle des DRI dans notre jargon, voilà, des dispositifs, on va dire, de repli, si j'ose dire, mais qui sont aussi, comment dire, dans l'optique de revenir, comment dire, de reprendre sa place à l'école. Donc le collège s'en préoccupe, et c'est vrai, depuis peu le curseur se déplace de plus en plus. L'ensemble, comment dire, des recherches d'action universitaires nous le montre. La question du décrochage ne questionne pas les plus de 16 ans uniquement, mais questionne également, vous l'avez souligné, des problèmes d'absentéisme en école primaire. Dès la petite enfance, on voit bien, des difficultés apparaissent, des difficultés cognitives qui sont portées par des élèves et avec, comment dire, un avis prédictif de réussite scolaire qui nous questionne.
Il y a une vraie question aussi, c'est, on parle de décrochage scolaire. Mais le décrochage, est-ce qu'il est scolaire ou est-ce que c'est pas tout simplement un décrochage social? Parce qu'il y a d'autres problèmes complètement extérieurs finalement à l'école, mais où l'école est finalement l'endroit où ça se révèle, on va dire, publiquement, socialement et de façon même évaluée.
Absolument. Finalement, le décrochage n'est que la cristallisation finalement des maux de la société. Économiquement, quand le pays va mal, quand le plein emploi n'existe pas, quand votre grand frère est qualifié d'un master 2 et qu'il ne trouve pas d'emploi au sein de la fratrie, ça peut en effet créer des désillusions. Pour autant, le rôle de l'école, c'est précisément, même si on nous rabat les oreilles avec l'absence d'ascenseur social de l'école, ce qui, à mon avis, je ne partage pas cette avis du tout, moi-même qui suis un pur produit de l'école républicaine, hein, comme vous tous, moi, je crois encore aux valeurs de l'école, aux valeurs fondamentales de l'école. Et on le voit bien, plus un jeune, finalement, sortira tard du système de formation, du système éducatif, ne serait-ce qu'avec un diplôme de niveau 5, et moins seront ses difficultés. Je dirais, il va diviser par deux, pardon, son risque d'être exposé, comment dire, au non-emploi et à un chômage chronique, quoi. Malheureusement, et la préoccupation du décrochage, on le voit bien, au-delà, comment dire, des questions de purement d'école, c'est le coût social. C'est ce que sous-tendait votre question, le coût social que représente la question du décrochage pour l'Europe, mais pour une nation comme la nôtre. Et tout le monde doit prendre sa part sur ces questions-là, me semble-t-il.
Depuis que vous travaillez dans ce domaine, est-ce que vous avez vu augmenter, en fait, ce qu'on peut appeler donc le décrochage scolaire, alors, en termes de nombre et de violence, peut-être, par rapport au rejet?
Alors, ce que j'ai vu augmenter, c'est surtout la mobilisation des acteurs, très clairement. Alors, moi, je souhaiterais louer...
Il y a une prise de conscience?
Alors, clairement. Je veux dire, encore une fois, je le disais tout à l'heure, la question du décrochage est une question, je dirais, qui mobilise l'ensemble des acteurs du système éducatif, mais au-delà également, je veux dire, l'ensemble des réseaux de formation. Donc, le législateur, hein, a mis en place des réponses Je vais vous en citer une, qui est la plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs. Réponse interministérielle. Enfin, on se parle entre ministères. On se dit que finalement, la question du judiciaire est peut-être aussi la question de l'école, et la question du traitement social est peut-être aussi en écho la question de l'école. Donc on a mis en place une structure qui est une structure d'aiguillage. Alors j'aime pas bien ce mot-là, mais c'est une réponse décloisonnée avec des experts de la question du décrochage autour d'une table qui, après avoir accueilli dans les différents réseaux que sont par exemple les centres d'information et d'orientation, les missions locales, les établissements scolaires qui nous signalent, comment dire, des décrochages, eh bien, ce collectif d'experts, entre guillemets, préconise une prise en charge qui jusqu'alors, finalement, était cloisonnée à notre précaré. Nous ne traitions que les questions des jeunes issus du système éducatif propre à l'éducation nationale publique. Or, maintenant, finalement, eh bien, on s'autorise, comment dire, à faire revenir dans le système éducatif classique des jeunes qui, dans des réseaux, finalement, de formation, comme l'apprentissage, comme les MFR, comme j'en passe et des meilleurs.
Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce que se représente justement le décrochage scolaire? Donc alors vous allez nous parler des plus de 16 ans, puisque c'est votre secteur, donc des plus de 16 ans sur un département comme la Sarthe. Et est-ce qu'il y a des poches géographiques particulières?
Alors, j'ai envie de dire, bien malin, vous allez me dire, mais c'est provoquant ce que vous dites, bien malin celui qui est capable, malgré le fait qu'on soit, je dirais, dans le sein des saints, par notre mission du décrochage, de dire exactement combien d'élèves décrochent en département. Moi-même, je n'en suis pas capable. Par contre, j'ai des ordres d'idées en termes de volumétrie. Alors, ce que je peux vous dire, par exemple, notre service sur le plan académique, actuellement, va gérer aux alentours de 1500 élèves. Sur le plan académique, nous, sur le plan départemental, nous allons prendre en compte et accompagner dans nos dispositifs que sont les pôles d'insertion, aux environs sur l'année scolaire, 350 jeunes, ramené à 10,5 ETP.
Sur la Sarthe.
Sur la Sarthe, voilà.
C'est énorme déjà.
C'est énorme, c'est énorme. Alors, ce qui explique tout ça, c'est que, bien évidemment, on dénombre mieux les jeunes, on les recense beaucoup mieux dans les réseaux de formation, les établissements publics en tête, et donc, comme on les recense beaucoup mieux, eh bien évidemment, on donne plus à voir, finalement, ces questions-là.
Alors, il y avait un deuxième volet dans la question, c'était le nombre et la violence, c'est-à-dire la situation de rejet, de rupture. Est-ce qu'elle est plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années? Est-ce que le décrochage scolaire a changé de nature? Oui. Est-ce qu'il évolue?
Alors, c'est une question complexe. Hein. Vous évoquez dans votre question précédente la question des risques psychosociaux, finalement, par territoire. En effet, je crois qu'il faut bien admettre aussi que des bassins de formation, des bassins d'emploi sont plus exposés de par le manque d'ambition scolaire, n'ayons pas peur des mots, de par l'offre, la carte de formation.
Donc ça concernerait plutôt les quartiers de banlieue, des zones rurales complètement isolées, dites-nous.
Des territoires où finalement l'offre de formation est une offre de formation de proximité, où finalement l'ambition scolaire est circonscrite, comment dire, à ce que l'établissement local du coin va offrir comme type de formation professionnelle. Et ça, en effet, ça peut... L'absence de mobilité, la paupérisation des familles, parce que se projeter dans une idée, mon fils va partir en internat, ma fille va partir à 200 km, faire une spécialité qui n'est pas couverte par le service public d'éducation ou d'enseignement privé sous contrat, imaginons, sur le territoire, fait que y a des familles qui renoncent. Voilà. Et la spécificité de notre département, c'est aussi de voir, d'observer qu'on a une surreprésentation des demandes vers la voie professionnelle. Voilà, par rapport à la carte des formations. Et on n'a pas une ambition scolaire, comme on pourrait observer en Maine-et-Loire, qui est sensiblement, comment dire, démographiquement semblable à notre département, encore moins en Loire-Atlantique, où là, on voit bien les indicateurs qualitatifs de passage en seconde sont plus importants sur ces départements que chez nous. Alors ça tient à des éléments à la fois contextuels, mais des éléments culturels, historiques. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve aussi avec un nombre de jeunes décrocheurs ou de jeunes sans solution chaque année important par rapport à ce que notre carte des formations est susceptible, comment dire, d'absorber.
Une question un peu stupide, mais
posons-la. Il n'y a pas de question stupide pour décrocher.
Tout de même, c'est sûr, la notion de profil type, par exemple, un jeune qui a redoublé déjà une fois, est-ce qu'a priori, il y a plus de risques qu'il soit décrocheur après?
Oui, absolument. Il y a des enquêtes qui ont été menées, notamment par le CEREC ou par des collectifs comme le CREN, qui sont des collectifs de chercheurs, qui démontrent très clairement, de manière prégnante, comment dire, la ce qu'on observe et ce qu'on connaît tous, hein, finalement. Le fait de redoubler en primaire, une fois, le fait de redoubler une nouvelle fois au collège, fait que ça obère, comment dire, les chances... Enfin, ça nous expose doublement, voire triplement, comment dire, à cette question de la sortie prématurée des établissements scolaires. Mmh. Entre un parcours linéaire de jeunes, finalement, qui réussit plutôt bien dans la norme académique, et un jeune qui a donné déjà des signes de difficulté d'assimilation cognitive, je dirais qu'on n'est pas sur le même registre, très clairement. L'exposition n'est pas la même.
La responsabilité de l'école elle-même dans le décrochage, quand il n'y a pas de situation sociale particulière, qu'est-ce que l'école crée elle-même éventuellement comme contexte conduisant au décrochage ?
Ah, bah écoutez, c'est une question à la fois complexe, mais en effet, l'école est elle-même génératrice finalement de situations de décrochage, parce qu'elle est vécue de manière anxiogène par certains élèves, par rapport notamment à la norme académique, par rapport, au fait que finalement, on observe un malentendu entre l'exigence finalement d'une école avec ses normes académiques, ses transmissions de savoir, etc., et puis aussi des jeunes qui ne sont pas en capacité de se mettre dans les conditions de réussite de l'apprentissage.
Alors Gilles Manson, on vous écoute très bien encore bien longuement sur ce sujet hyper important du décrochage scolaire, mais il va falloir qu'on arrive quand même au terme. Donc ma dernière question, ce sera par rapport à votre présence ici sur Formasart. Parce qu'en fait, Formasart est là pour aider à trouver des solutions en matière d'orientation, etc. Mais le décrocheur, il vient pas vous voir. Qui vient vous voir ?
Alors qui vient nous voir sur le salon, en l'occurrence, viennent nous voir les chefs d'établissement qu'on connaît tous bien évidemment, les équipes de direction, les équipes pédagogiques avec qui on doit mener un travail, et ça sera notamment l'objet et la nature de notre plan d'action académique que le recteur nous a assigné dans les prochaines missions à venir. Bien évidemment, travailler au plus près la question de la rupture du décrochage avec les équipes pédagogiques, questionner les positionnements scolaires, les postures professionnelles, voilà un début de réponse, mais c'est des choses qu'on ne fera pas sans l'ensemble des acteurs et avec la volonté des acteurs. Alors, pour répondre de manière plus exhaustive à votre question, même si nous, on peut se définir comme un service interventionniste, un peu des pompiers de l'école, on peut dire ça comme ça, trivialement, eh bien, on essaie de créer, finalement, des nouvelles ressources pour ces jeunes, créer des ressources qui puissent les raccrocher, parce que je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Le décrochage est souvent connoté comme un ensemble de difficultés, mais on a naïveté de penser, nous, que finalement, on n'est plus dans une logique de raccrochage, de redonner du sens finalement à la présence à l'école. Et on s'y emploie au quotidien grâce à
l'équipe. En tout cas, on vous remercie pour la passion que vous avez, dont vous avez témoigné ici pour
c'est
nous expliquer un peu tout ça. Vous êtes Gilles Manson, donc coordinateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Une question importante à suivre et surtout très évolutive. Et je pense que dans 2 ans, sur le prochain Formasart, si on se revoit, faut espérer que des solutions auront été trouvées, mais le contexte aura lui-même sans doute évolué, et sans peut-être pas forcément dans le bon sens. Ah, la crise économique joue un rôle capital.
Capital, je n'irai pas jusque-là, mais je pense en effet que la période du plein emploi fait qu'à un moment, ces questions que vous évoquiez, chômage des jeunes, d'exposition au chômage, etc., de la perte de sens collectif, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Eh bien, en effet, ça va mieux à certaines époques qu'à d'autres.
Gilles Manson, merci.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.